Commis voyageurs, on appelait ça un peddler aussi, non?
Oui.
Mais
en
ça,
bon
c'était
français.
Péjoratif
en
quand
bon
même.
Français, ouais. Ah, c'est un article de la revue Nostalgie, d'une des revues Nostalgie 2024, La vraie mort des commis voyageurs, un métier qui n'existe plus. Alors, à une certaine époque, bien avant Internet et toute la technologie moderne, il existait des métiers qui, aujourd'hui, ont complètement disparu. Pensons au forgeron, le draveur, le bedeau à l'église.
Il en reste quand même quelques-uns.
Oui, mais ça n'a pas toute l'importance que ça avait, tout le prestige que ça avait à l'époque. Hein.
Mais je parle des forgerons, des bedeaux.
Oui. Et ou encore, pensez aussi aux frères enseignants, les frères de l'instruction chrétienne. C'est aussi le cas du commis voyageur et du vendeur itinérant. Figurez-vous que l'ancêtre du commis voyageur en Nouvelle-France est sans aucun doute possible le coureur des bois et le marchand de fourrure.
Ouais.
On connaît l'histoire. Le coureur des bois partait avec des objets inconnus ou peu connus des Autochtones, miroirs, bouilloires, outils, armes à feu, mais surtout malheureusement de l'alcool, et les troquait contre des fourrures. Si les coureurs des bois étaient des aventuriers, ils devaient aussi être d'excellents vendeurs pour convaincre les Autochtones d'échanger leurs fourrures contre des pacotilles. Et c'est bien triste, ça.
Se faisait avoir.
Ouais. Ils étaient de véritables commis voyageurs, puisque souvent, ils étaient engagés, figurez-vous, par la compagnie de l'abbé d'Hudson.
L'abbé qui ferme dimanche officiellement.
Oui. Le métier de commis voyageur a joué un rôle prédominant dans l'histoire du commerce au Canada. Avant que les magasins à grande surface et des chaînes de magasins de toutes sortes fassent leur apparition, les marchands des petites villes devaient faire appel à des grossistes qui se trouvaient dans les grandes villes, Montréal et Québec principalement. Et comme ces commerçants ne pouvaient pas toujours s'y rendre pour s'approvisionner, ben ils attendaient impatiemment les commis voyageurs pour découvrir les nouveaux produits et passer des commandes pour leur clientèle. On établit approximativement l'apparition des commis voyageurs au Québec au milieu du 19e siècle.
Ah, quand même!
Oui, vers les années 1850. À cette époque, les commis voyageurs transportaient avec eux leurs marchandises. Il fallait donc que celles-ci soient assez rudimentaires. Au début, les commis voyageurs transportaient principalement des denrées non périssables, comme le thé, le sucre, les épices, mais aussi beaucoup de produits pharmaceutiques. Et à une époque, avant l'arrivée de l'automobile, les gens pouvaient voir arriver le commis voyageur par le train. Chou-chou! Celui-ci portait deux ou trois énormes valises. Il établissait son bureau, normalement dans un des hôtels de la ville où il logeait, et il pouvait passer une semaine ou 10 jours au même endroit, et il allait visiter ses potentiels acheteurs ou il recevait à l'hôtel des gens. Les commis voyageurs étaient plus que des vendeurs. Ils tâtaient également le pouls de leur clientèle pour savoir quelles marchandises les intéressaient le plus. Ils étaient l'oreille des grossistes qui, de cette façon, pouvaient mettre en marché des produits qui avaient des fortes chances de bien se vendre. Tu sais, le commis voyageur pouvait dire au grossiste, bien, regardez, ça fait plusieurs personnes qui me parlent que tel savon sur le marché, il ne peut pas trouver un savon qui lave très, très bien ou un produit pour le bain, tout ça. Et ça permettait à la compagnie, évidemment, de développer un produit. Ils étaient aussi d'excellents raconteurs, reconnus pour leur bagout et leur sens de l'humour. Comme le dit l'adage, ils pouvaient vendre un réfrigérateur à un Esquimau. On a souvent entendu ça. Dans un texte qui raconte l'histoire des magasins généraux et commerces d'autrefois, de Rivière-à-Pierre, dans la région de Portneuf, on peut lire, fondé en 1890 par M. Joseph Nazaire Perron, un nom bien de l'époque, le magasin s'intègre à la maison familiale déjà construite. Les fournisseurs attitrés de ce magasin général étaient les maisons J.B. Renault de Québec. Aux commis voyageurs du temps, soit JBS Moisan, on commandait la marchandise qui était expédiée par train. On y trouvait de tout, du foin à l'avoine, du vinaigre à la melasse, qui était livré en tonneaux de 90 gallons.
Je vais prendre du foin puis de la melasse
oui.
Cette semaine.
Cette dernière, la melasse, se vendait alors 10 sous la pinte. Un bon prix.
Une bonne affaire.
Oui. Le commis voyageur ne pouvait pas porter avec lui tout ce qu'il avait à vendre, mais un bon commis voyageur avait intérêt à vendre le plus de produits possibles parce qu'il était souvent payé au pourcentage. Il travaillait au pourcentage, le monsieur. Alors, évidemment.
Il y avait une cote.
Oui, plus tu vends et plus tu.
Tu fais de l'argent.
Plus tu as des sous. Avec l'arrivée de l'automobile, le travail du commis voyageur change du tout au tout et prend de l'expansion. Et dans des petites villes comme Saint-Hyacinthe ou Saint-Jean-sur-Richelieu, les commis voyageurs se présentaient plusieurs fois par année. Et la profession a rapidement évolué. Si au début, le commis mettait le plus d'articles possible dans son studio, dans son auto, pardon, ou sa familiale, son auto ou sa familiale, station wagon,
oui,
ou le
avec
break,
du bois là, sur les côtés.
Oui, oui, oui. L'apparition des catalogues est venue faciliter son travail.
Wow! Mm-hmm. Alors, on va écouter une... Est-ce qu'on l'appelait une commis voyageuse, Mme Avon?
Non, c'était Mme Avon.
Oui, mais c'était quand même le métier qu'elle exerçait.
Oui, oui, oui.
Elle
oui.
se promenait de maison en maison.
Oui, sauf que c'était, elle avait un territoire près de chez elle.
Oui.
Alors qu'un commis voyageur pouvait aller beaucoup plus loin.
Oui, à l'époque où il y avait des voitures. Mais mm-hmm. À partir du moment où il y a eu des autos, là, il a parcouru le Québec et fait toutes sortes de rencontres.
Est-ce qu'on l'écoute tout de suite ou plus tard?
Bien là, on n'a pas le temps parce qu'il reste 15 secondes. Mais dès le retour à 10 heures, on va écouter un extrait de Mme Avon, qui est Mme Lacroix, qui était une Mme Avon.
Exactement.
Serge, qui continue sa lecture du texte qui concerne les commis voyageurs. Vous avez trouvé ce texte dans une revue que vous appréciez, Nostalgie.
Nostalgie, 2024. Alors, dans les années 1950 et 60, à Saint-Hyacinthe, il y avait un commis voyageur qui faisait affaire avec des marchands de meubles de la région. Bon, évidemment, il ne pouvait pas transporter les meubles avec lui dans ses affaires.
Dans ses valises.
Dans son station wagon, dans ses valises, oui. Il avait donc toujours avec lui de gros catalogues de toutes les nouveautés en décoration et les marchands pouvaient choisir et passer leurs commandes. Mais pour rentabiliser ses déplacements, ce commis voyageur était bien coquin. Il avait installé dans son automobile des cintres auxquels étaient suspendus des vêtements féminins. Qui le vendait à ces bonnes dames.
C'est quoi ce ton-là?
Je sais pas. Les femmes allaient dépenser les sous du ménage en frivolité. Et évidemment, ben, c'était quand même pratique parce qu'il n'y avait pas de boutique de vêtements dans les
campagnes.
Dans les campagnes, alors c'était pratique pour les femmes.
Mais moi, me rappelle plein de souvenirs hein, parce que je suis née à la campagne. Mm-hmm. Donc, il y avait un camion qui arrivait.
Ah, ouais.
J'ai magasiné des jeans. On était tout énervés, mes soeurs et moi. On rentrait dans le camion puis on magasinait. Puis il y avait aussi le vendeur d'encyclopédie, la jeunesse, Gaulier, M. Fowler avec ses brosses.
Mm-hmm. Oui. Et les balayeuses électro...
Electrolux?
Oui. Si certains commis voyageurs se déplaçaient uniquement avec des catalogues pour présenter et vendre les différents produits des grossistes, d'autres s'intéressaient plus aux petits commerces, comme les magasins généraux ou un peu plus tard, les premiers dépanneurs. Il n'était pas rare de rencontrer des commis voyageurs qui vendaient des crayons, des bonbons, des cartes d'anniversaire, des cartes postales.
Ils vendaient tout, tout.
Oui. La marchandise variait aussi selon les saisons. Pour l'Halloween, ils proposaient des masques, des costumes et autres objets pour fêter l'événement. C'était aussi le cas pour la fête nationale du Québec, la Saint-Jean-Baptiste, où les articles pyrotechniques et les drapeaux étaient très demandés. Ce n'est qu'avec l'arrivée des centres commerciaux et des magasins comme Eaton et surtout Simpson Sears que les commis voyageurs ont progressivement disparu. Le monde des vendeurs itinérants a toujours existé et existe encore aujourd'hui. Évidemment, il est de plus en plus rare que quelqu'un vienne frapper à votre porte pour vous offrir un produit. Premièrement, les réseaux d'information peuvent nous diriger très facilement vers ce que l'on cherche. Aujourd'hui, c'est tellement facile. Vous cherchez un produit, vous le tapez sur Google, puis... Et deuxièmement, les gouvernements, pour mettre fin à des fraudes de plus en plus fréquentes, ont resserré les lois régissant les ventes de porte à porte. Alors, on a ici un témoignage qu'on va écouter d'une dame. Elle va s'identifier d'ailleurs, vous allez la voir. Alors, Mathieu va nous...
Une partie du témoignage, parce que ça dure...
Une partie, 30 secondes. Là,
49 secondes, 49 juste secondes. Pour vous, chers auditeurs.
Voici Avon, madame. J'ai commencé à vendre des produits Avon. À Saint-Rose, Saint-Écate. Puis on avait une petite valise là pour se promener avec ça. Puis des fois, ils nous voyaient arriver avec notre petite valise. Oh, madame Avon! Là, je faisais ding-dong! Voici Avon, madame! Puis là, c'était un monsieur qui ouvrait la porte puis disait Avon besoin de rien! Puis là, moi, je disais Avon tout pour plaire! Là, il disait, Nicole, la madame Avon. C'était drôle.
C'était simplement la vie, autrefois, avec Madame Mireille Lacroix.
Madame Avon, oh wow, ouais, que de souvenirs. Ouais. Est-ce que vous vous souvenez de Madame Avon, Isabelle?
Ben, pas dans ce contexte-là, mais j'ai été dans des...
Vous avez été Madame Avon?
Des présentations Avon. Non, mais j'ai eu une Madame Avon. D'ailleurs, ça me manque. J'ai ma crème pour le visage que j'ai pu depuis que j'ai perdu contact avec ma Madame Avon.
Mais les produits Avon, ça existe toujours?
Oui, ça existe toujours, puis il y a des très bons produits.
Oui, c'est vrai. Mais moi, je me souviens de Madame Avon qui venait avec sa petite valise. Là, c'était pas Madame Lacroix qu'on a entendu. Et ce qui était agréable aussi, c'est qu'elle avait toujours des échantillons. Ouais. Elle nous laissait des petits rouges à lèvres. Mathieu, les produits Avon?
Pas de rouge à lèvres.
Avons besoin
côté.
De rien?
Non, avons besoin de rien, exactement.
Oui, de rien.
Serge?
Oui, alors.
Non, mais les produits Avon dans votre vie, est-ce que ça évoque quelque chose?
Je ne me rappelle pas. C'était sur le plateau Mont-Royal, moi.
Oui, Madame Avon ne passait pas là.
Ben, je ne me souviens pas que ça... Ou peut-être qu'elle passait le jour, moi j'étais à l'école.
J'ai une amie qui s'est déjà déguisée en Madame Avon à l'Halloween. Elle était juste parfaite.
Alors, cette dame, Madame Lacroix, elle a 86 ans aujourd'hui. Elle a été représentante Avon durant 50 ans.
87, j'imagine, vu que c'est une revue de 2023.
Oui, exactement, oui. Elle est de Sainte-Rose-Laval et elle a débuté en 1964.
Wow!
Donc, elle a fait jusqu'en 64.
Oui, c'est ce qu'elle dit, 64.
14, oui, ouais. Elle est bonne, madame. Alors, les plus connus des vendeurs itinérants sont sans doute les Dames Avon et les vendeurs d'encyclopédies Groslier.
Oui!
Oui, oui, oui. Là, Hélène est bien contente.
On a toujours la collection chez ma mère.
Ah oui?
Dans la cave, dans le sous-sol,
oui. Ah, ouais. Wow.
C'est précieux.
Oui, oui, oui. Madame Avon, pour donner un exemple, je reviens à Madame Lacroix. Elle a débuté en 1960 et ajoute que sa première vente fut un rouge à lèvres à 49 cents.
C'est plus cher que ça aujourd'hui.
Oui, bien, pas mal, pas mal. Alors, l'encyclopédie Groslier. Quant aux vendeurs des fameuses encyclopédies Groslier, c'était surtout de jeunes étudiants, souvent universitaires, qui passaient de porte en porte pour vendre toute la collection. Groslier était le Google de l'époque. Mais il fallait avoir un peu d'argent pour acheter les 15 volumes de la collection. Parce que c'était assez gros hein, comme collection.
Ouais.
La collection Encyclopédie de la jeunesse. Un homme aujourd'hui âgé de 72 ans raconte comment son frère et lui étaient parvenus à convaincre leur père d'acheter toute la série. C'était au début des années 1960 à Saint-Jean-sur-Richelieu. Mon frère et moi étions pensionnaires dans un collège classique à Montréal. Mes parents n'avaient pas fréquenté l'école très longtemps. Mon père n'avait qu'une troisième année. Quand le vendeur d'encyclopédie est venu frapper à notre porte, nous avons été très impressionnés. Il s'agissait de très beaux livres à la reliure épaisse qui fournissaient beaucoup d'informations. C'était beau à voir, à manipuler. Hein,
magnifique.
La belle reliure, tout ça, puis ça nous invitait à la curiosité.
Oui.
C'est bien dit, ça.
Oui.
Ça nous invitait à la curiosité.
Le vendeur nous proposait l'encyclopédie de la jeunesse et nous promettait la découverte d'un nouveau monde. Si je me souviens bien, l'encyclopédie coûtait au-delà de 100 $. On est en 1960, ouais. Hein?
C'était quand même de l'argent.
Beaucoup de sous. Grosse somme pour l'époque. Mon père ne savait pas quoi faire. Mon frère et moi insistions pour qu'il l'achète. Le vendeur nous avait convaincus et nous avons, notre tour, convaincu notre père. Une chaîne. Dans les premières semaines, nous avons souvent feuilleté notre encyclopédie. Mais petit à petit, la collection est demeurée dans la bibliothèque et a surtout servi à ramasser de la poussière.
Ça donne envie d'y retourner.
Oui. Groslier fermait ses portes en 2009 quand même, ça ne fait pas très très longtemps. Mm-hmm. Et avec l'apparition de l'Internet et des moteurs de recherche comme Google...
Et les aussi l'intelligence artificielle.
Oui. Les encyclopédies, malheureusement, sont devenues désuètes parce que vous avez tout ça à l'écran. Vous tapez le mot que vous recherchez, puis ça y apparaît 25...
Mais c'est agréable aussi, feuilleter un livre, avoir du concret.
Oui.
Bon, alors, ben merci. Vous avez fait le tour?
Oui, absolument, oui.
Merci beaucoup. Et je vous remercie aussi, Isabelle. On va se retrouver la semaine prochaine. Peut-être que oui, peut-être que non. Il y a toujours un suspense.
Oui, c'est ça, exactement. Mais est-ce que j'ai une minute pour juste vous parler de quelque chose en lien avec un sujet d'aujourd'hui?
Avec plaisir.
Parce que vous avez mentionné que vous allez parler avec Lazy Legs.
Oui.
Et moi, je me souviens que j'avais fait sa connaissance quand j'étais recherchiste, justement, à Canalim. Mm-hmm. Et j'ai eu la chance d'aller visiter le Musée Mémoire Montréalaise, qui est sur Sainte-Catherine, au coin de Saint-Laurent.
Oui.
Je recommande vraiment chaudement. Et dans l'exposition Détours, qui est une collection de petites vidéos sur des personnes, des Montréalais intéressants, il y a une vidéo avec Lazy Legs, là. C'est vraiment chouette.
Oh, donc, super.
Dernièrement, j'avais pas entendu parler de lui depuis 20, une dizaine dizaine d'années, puis tout à coup, ça fait deux fois en,
en peu de temps.
Une semaine. Oui. Mais je vous recommande vraiment d'aller voir. Puis c'est un musée qui est vraiment pas très cher, là, et c'est très beau.
Alors, le musée, rappelez-nous son nom du au musée.
Le nom du musée? M-E-M ou Mémoire montréalaise.
Ah. M-E-M ou Mémoire montréalaise. Sur Sainte-Catherine.
Oui, juste à côté du Cléopâtre, du TNM et du Belle Province. Okay. Sainte-Catherine-Saint-Laurent.
Et du Montréal Pool Room.
Oui, c'est ça.
On va manger un hot dog shootout puis on va au musée avant ou après.
C'est ça, une journée
parfaite. OK, ben merci beaucoup, Isabelle. Puis merci aussi à Serge. Et on salue Daniel Lachance, qui sera avec nous. Lui, il a confirmé sa présence la semaine prochaine. Une chanson de Garoulou. À l'époque, Garoulou s'appelait Loup-Garou. Et ils ont connu un succès avec cette chanson-là, Dis-moi, Charles. Et tout de suite après, on parle avec Michel Lalonde, auteur, compositeur, interprète, membre fondateur de Garoulou, qui chante toujours à 70 ans passés.